Seigneur, d'envoyer ton esprit, que ton esprit bouge ici, bouge en nous, nous inspire, nous aide à saisir ta parole, Seigneur, qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais on sent toujours le désir de vouloir s'en nourrir. Aussi, Seigneur, on te demande d'enlever d'ici tout ce qui n'est pas de toi, tout enseignement qui n'est pas tien, Seigneur, enlève-le. Parce que ce qu'on veut rencontrer ce matin, celui qu'on veut rencontrer, c'est toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen. Donc, on est dans les commentaires à la prière du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Selon les traductions. Il y a un texte de l'Ancien Testament qui illustre très bien le titre de la prédication de ce matin, du message de ce matin. Ça vient de Exode 16, les versets 10 à 27. Donc, on va lire Exode 16, 10 à 27. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles, qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. » Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de vers. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Ça illustre bien comment le Seigneur pourvoit à nos besoins. On ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas ce qui va se passer. Et le Seigneur nous donne ce qu'on a besoin. C'est inquiétant le temps entre où on ne sait pas ce qui va se passer, puis ce qui se passe. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir confiance dans le Seigneur. C'est là que la foi naît. La foi, la promesse naît. C'est là qu'elle apparaît, qu'elle se développe. Il y a 3-4 points qui attirent notre attention ici. En fait, 4. D'abord, des choses qui peuvent nous agacer un peu. Le caractère dernière minute de l'affaire. On n'est pas habitué à vivre comme ça. Puis d'ailleurs, quand on le fait, on est critiqué par tout le monde dans nos sociétés. Quand je disais, mes devoirs sont à remettre demain matin, je vais attendre à 9 heures avant que l'autobus passe pour commencer à les faire. C'était pas bien reçu nécessairement. Quand on est vu quelqu'un toujours à dernière minute. Tout le monde arrive à 10 heures pile à l'église, voyons donc arriver avant. On se dit ça. Ça attire notre attention, le caractère dernière minute. Pourquoi le Seigneur ne nous aide pas à mettre un petit peu de paix dans notre cœur en nous assurant déjà tout ce qu'on aura besoin? On se dit ça. Un autre aspect qui attire notre attention et qui nous inquiète aussi, c'est qu'on nous promet un pain, mais en fait, ce n'est pas du pain qui apparaît. La manne, ce n'est pas du pain. Mais évidemment, il faut utiliser une analogie. Il faut dire quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. On ne peut pas le nommer. C'est une nourriture. C'est tout ce qu'on en sait. Puis en fait, on ne sait même pas que c'est une nourriture quand ça apparaît. Il faut avoir confiance dans le Seigneur pour savoir que ça peut se manger. C'est un pain qu'on ne connaît pas, une nourriture qu'on ne connaît pas. C'est intéressant de voir avec aujourd'hui comment on est appelé de plus en plus à se nourrir à partir des choses qu'on ne connaissait pas il n'y a pas longtemps. Quand on voyage, quand on va en mission, on est appelé à se nourrir avec des choses qu'on ne connaissait pas. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir pour pouvoir accueillir ce que le Seigneur nous offre, les bénédictions que le Seigneur nous offre. J'ai eu une belle expérience cet été dans mon voyage au Cameroun. J'ai mangé des vers blancs. C'est délicieux. Et je dois avouer que je ne pensais pas que c'était des vers blancs, je pensais que c'était des abats. Mais finalement, le résultat était bon. C'est en croquant les têtes ou que ça devient croustillant, je me suis aperçu que ce n'était pas des abats. Ne pas accumuler de réserves. Ça, c'est une autre chose aussi, un troisième point qui attire notre attention. Puis pour nous, on est dans une société où on a à ramasser, on a à prévoir notre retraite, on a à prévoir des jours où on ne pourra plus travailler, un peu notre sabbat finalement. Puis il faut voir ici qu'est-ce que le Seigneur nous dit, ce n'est pas de ne plus prévoir, c'est d'avoir confiance en lui. Parce que le sixième jour, il nous dit bien, prévoyez le septième, parce que ce jour-là, vous n'allez pas travailler. Et puis dans notre vie, on a des cycles, il faut prévoir des cycles. Des cycles où on ne travaillera pas. Il faut prévoir des moments aussi où il peut arriver des accidents et on ne travaillera pas nécessairement. Et le Seigneur, on voit dans le texte qu'il n'est pas contre ça. Et surtout, le quatrième point, c'est d'avoir confiance au Seigneur et savoir que c'est lui qui pourvoit. Peu importe ce que je fais, que j'en ramasse plus de la manne, que j'en ramasse moins, j'aurai toujours ce que j'ai besoin si je mets ma confiance dans le Seigneur. Peu importe ce que je fais, tout ça ne dépend pas de moi. Si ça va bien dans ma vie, ça ne dépend pas de mon travail. Si ça va bien au travail, ça ne dépend pas du fait que je vais mettre plus de temps, que je vais montrer plus d'ardeur. Ça dépend du fait de la bénédiction du Seigneur dans mon travail. Et puis le Seigneur va commencer par me le faire aimer, ce travail-là. D'abord et avant tout. Et c'est là, après ça, que les choses se passent. Ils vont dire, non, le Seigneur n'a rien à voir là-dedans, dans le fait que je me plaise dans mon travail. C'est parce que je l'aime, précisément. On aime ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Il nous apprend à aimer ce qu'on fait. Et des fois, il met certaines volontés, c'est ce qui nous permet de prendre des choix, de faire des choix dans la vie. Il faut, évidemment, quand on regarde ce texte-là, prendre en compte l'époque dans laquelle se trouve Moïse et le peuple d'Israël. Un système économique qui est bien différent du nôtre, un système social qui est bien différent du nôtre. Et quand on reçoit ça pour aujourd'hui, faut le mettre en contexte. Il faut le remettre en contexte. Faire ce qu'on dirait en théologie une herméneutique. Interpréter le texte, comprendre pour ce qu'il est, mais voir comment on peut l'incarner aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Exode, qu'est-ce qu'Exode 16, ce chapitre-ci, me dit aujourd'hui? Bon, d'abord, comme je disais, il y a un moment historique aussi qui est la trame de fond de ce texte-là. Les gens d'Israël fuient l'esclavage, d'abord. Et puis, il y a un processus, évidemment, migratoire vers la terre promise qui est entamé, une marche vers. C'est l'essentiel des paramètres historiques dans lesquels va se placer cette confiance-là dans le Seigneur. Il y a un caractère très provisoire à la situation. Ceux qui ont vécu, qui ont passé par des migrations, on le sait, il y a des moments dans le processus de migration, il n'y a rien de prévisible. On aurait beau vouloir, ce n'est pas comme ça que ça marche, il faut juste s'en remettre au Seigneur. Les papiers qui ne se font pas, les papiers qui n'arrivent pas, les frontières qui se ferment, les situations politiques qui se dégradent à certains endroits, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a toujours un temps d'incertitude. Ça fait partie de la réalité du peuple d'Israël à ce moment-là, ce qui n'est pas toujours notre réalité non plus aujourd'hui. Mais plusieurs d'entre nous ont passé par ces processus-là, ou passent par ce processus-là, migratoire, ou vont le faire, ou le refaire. Mais tous, nous tous, comme le peuple d'Israël, nous sommes en fuite d'esclavage. On a à se libérer de nos esclavages, des esclavages qu'on subit, qui peuvent être de toutes sortes. Évidemment, un travail aliénant, un travail qu'on n'aime pas, un travail qui est mal payé, un travail qui nous prend trop, puis on développe une addiction à ce travail-là, une façon de fuir, de s'échapper des moments de la vie qui sont trop difficiles pour nous, puis on reste plus tard au travail. Et puis là, évidemment, on va travailler plus parce qu'on va se sentir menacé, menacé de perdre ce travail-là, parce qu'on a besoin, il faut qu'on prévoie pour plus tard, on a besoin, on n'a pas tout mis notre confiance dans le Seigneur encore, puis on a peur de le perdre, ça. Fait qu'on se réfugie là-dedans. On s'échappe de nos réalités, on néglige notre entourage, on néglige notre famille, les nôtres, nos amis. Puis on est pris dans ce tourment-là. On court après quelque chose, on ne sait pas quoi au juste, mais on a peur de manquer. Manquer de travail, manquer du salaire dont on a besoin. En fait, la même chose que le peuple d'Israël dans le désert. Il ne faut pas oublier une chose. Hein. Des fois, on a tendance, ou plutôt, il faudrait peut-être dire, j'ai tendance à critiquer les Israélites dans le désert. Voyons donc, le Seigneur vient de vous libérer de l'esclavage, puis aussitôt qu'il y a une petite difficulté, vous vous mettez à brailler, puis vous voulez retourner en Égypte. Gang de, hein? Et pourtant, on fait exactement la même chose, je fais exactement la même chose dans ma vie. Aussitôt qu'il y a une difficulté, on dit, on était tubain avant. Pourquoi j'ai pris cette décision-là? Pourquoi je ne suis pas resté tranquille là où j'étais? Il me semble que ça allait bien. Quand j'étais en Colombie, je me disais, pourquoi je ne suis pas resté au Québec? Il me semble que ça allait bien, là. Depuis que je suis revenu au Québec, pourquoi je ne suis pas resté en Colombie? Il me semble que ça allait bien, là. On était toujours pris dans un certain confort qui n'était pas nécessairement confortable. Mais c'est quand on affronte d'autres difficultés où on aurait le goût de revenir à ce confort-là. parce qu'il y avait une certaine sécurité peut-être. C'est la même chose dans toutes nos addictions. On parlait de l'addiction au travail, mais aussi les addictions à l'alcool, les addictions à la sexualité, les addictions aux jeux. Il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. On sait où on s'en va. On sait qu'on va vers notre perte. On sait où on s'en va. On sait toujours quoi faire. Pas d'appel à la créativité. On fuit nos situations quotidiennes. Sur le moment, c'est efficace, mais ça ne va jamais plus loin. Et ce que le Seigneur nous propose, c'est autre chose. Autre chose où les relations humaines vont être différentes. Autre chose où les relations sociales vont être différentes. Autre chose où notre relation à la matérialité, à l'économie va être aussi différente. Plein de promesses. Ça fait peur, c'est aussi tentant. Et c'est là qu'il ne faut pas se laisser arrêter par les obstacles qui arrivent au cours de la vie. C'est toujours difficile de laisser nos vieilles habitudes de vie. On pourrait dire d'un côté, hey, c'était le bon temps quand j'étais petit, puis le dimanche, on allait à la messe. Il y avait quelque chose de tranquillisant là-dedans. Puis à un moment donné, le Seigneur nous amène ailleurs, à faire autre chose, à aller dans des endroits le dimanche matin qui vont nous laisser peut-être un peu moins tranquilles parce que ça nous confronte, puis qu'on est obligé de la mettre en pratique pendant la semaine. On laisse nos vieilles habitudes et on migre vers une autre vie. Quand on se retrouve avec le Seigneur, comme ça, qu'on laisse nos vieilles habitudes, qu'on s'abandonne au Seigneur, et qu'on dit, oui, montre-moi la voie. Montre-moi la voie de ce que tu me promets, d'une vie nouvelle pour moi, à partir de maintenant, qui va se continuer après ma mort, mais qui va commencer tout de suite. On trouve que les réponses sont souvent à dernière minute. On a donc le temps d'entrer en panique. Finalement, tout se résout bien. Il y a toujours une solution auquel on n'a pas pensé, puis qu'apparaît, le Seigneur voit à faire ça. Mais jusqu'à temps que les choses se règlent, on a peur, on panique. On ne connaît pas, on ne sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir se sortir d'affaires. On est submergé par des dettes, on est pris avec trop de travail, on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en finir. Les problèmes ne font que s'accumuler à la maison et ne se résolvent jamais. Seigneur, je t'ai dit que j'allais te suivre, mais là, montre-moi quelque chose. On se dit, bon, pourquoi je suis embarqué là-dedans? Quand on décide, par exemple, de dire, moi, je vais servir le Seigneur. Je laisse un bon poste, puis je pars en mission. Je laisse un bon poste, puis je deviens pasteur. Je laisse un bon poste, puis je vais travailler pour les miens avec peu de moyens. Il vient des moments donnés où on est confronté avec le fait qu'on a peur de manquer. Nous qui n'avons jamais manqué de rien. Puis on dit, Seigneur, là, abandonne-moi pas. Puis pourquoi j'ai fait ça, laissé ce travail-là? Pourquoi j'ai laissé ma vie d'avant avec ses certitudes, avec ses conforts, mais aussi avec ses scléroses? Mais là, on n'y pense plus. Là. On veut juste retourner là pour éviter la confrontation de la vie nouvelle dans le Seigneur. On aimerait avoir des réserves avant d'agir, avant de prendre des décisions. On se dit, OK, je vais m'engager dans telle chose, mais je vais regarder mon économie avant, je vais regarder mes finances, voir si je peux le faire. Quand c'est pour le Seigneur, il ne faut pas se poser de questions. Je dis ça, hein, le premier que je critique, c'est moi-même. Il y a eu des époques, je vous l'ai déjà raconté ici, on partait quelque part faire un travail d'évangélisation, puis j'avais peur de ne pas avoir assez de gaz dans mon char. Bon, je l'ai confessé. Puis il y a des fois, je ne suis pas parti parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. Et je n'ai pas pu mesurer comment le Seigneur aurait pu trouver la solution à ça. Parce que je ne l'ai pas risqué. Avoir confiance dans le Seigneur. C'est à ça qu'on est appelé. On fonce, des fois, on se dit, oui, on a de l'air à s'en aller droit dans un mur. Mais le Seigneur peut le détruire, ce mur-là. Le Seigneur peut l'enlever. Le Seigneur peut nous dévier de la trajectoire. Ayons confiance en lui. On a toujours peur pour ce pain quotidien-là. En fait, ce que représente le pain quotidien, c'est la nécessaire matérialité de nos vies, la matière, ce qu'on a besoin pour vivre, pas le strict minimum, mais pour bien vivre. C'est ça le pain, ce que symbolise le pain. Pour les sociétés sémites, pour les sociétés européennes aussi, ça a été longtemps la base de l'alimentation. On disait qu'au 16e siècle, au 17e siècle, en Europe, le pain représentait 60 % de l'alimentation quotidienne des paysans. Venait le reste après. C'était ça la base. C'est dans ce sens-là. N'ayez pas peur pour ce que vous avez besoin pour votre vie matérielle. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une société évidemment différente, beaucoup plus globalisée, beaucoup plus en termes de nations, avec des grandes collectivités, avec des villes. Et le pain quotidien, comme ça a été promis aussi au peuple d'Israël, ce n'était pas juste pour Moïse, c'était pour tout le peuple. Le pain quotidien que nous promet le Seigneur, le bien-être matériel que nous promet le Seigneur, une bonne vie comme nous le promet le Seigneur, depuis maintenant, pas juste après, souffrez maintenant, puis vous aurez une belle vie après. Non, depuis maintenant dans l'histoire, ce n'est pas juste pour nous, mais pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de notre communauté dans laquelle on se trouve. Et puis, force est d'admettre que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Tout le monde ne mange pas à sa faim. Tout le monde ne vit pas un bien-être, qui évidemment est très relatif selon les personnes et selon les conditions. Quand on dit « Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui, notre pain, donne-nous le bien-être aujourd'hui à nous tous. » Et quand on voit qu'il y a des manquements, quand on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, « Seigneur, fais-moi participer à la solution. Seigneur, appelle-moi, inspire-moi et fais-moi travailler en ton nom pour amener ce pain-là dans cette société-là. » Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de pain sur la table de tout le monde, qu'il n'y a pas de bien-être dans la vie de tout le monde? Des injustices, des iniquités. Qu'est-ce que je peux faire, moi, Seigneur, pour arrêter ça? Vous avez sûrement déjà entendu le vieux proverbe chinois qu'on cite à tout bout de champ, qui a sa raison d'être, mais qu'on va dépasser un peu dans une perspective de l'Évangile, qui dit « il ne faut pas donner à manger à quelqu'un qui a faim, il faut lui enseigner à pêcher. » Bon, c'est prétentieux. Et surtout un urbain comme moi, quand j'entends quelque chose comme ça, comment moi je peux enseigner à quelqu'un à pêcher, à travailler la terre, à élever du bétail, c'est une vraie farce, là, c'est pas sérieux, je peux pas faire ça, je ne sais même pas comment le faire. Comment je peux enseigner ça? Ça peut pas être ça, mon travail. Ça peut pas être ça, dire aux autres. Non, et le pire, c'est que tous ceux qui crèvent de faim le savent comment le faire. Ils n'ont pas accès aux ressources. Il y a des injustices qui font en sorte qu'on leur a volé, pollué la rivière, qu'on a pris leur terre, qu'on les a soumis comme ouvriers agricoles, là où ils possédaient un lopin de terre pour vivre. Il est là le problème. Moi, comme chrétien, est-ce que je laisse passer ça? Est-ce que j'interviens là-dedans? Comment j'interviens? Et c'est là qu'on apprend de position. Le geste de charité, quand on donne à manger à quelqu'un qui a faim, je pense qu'il faut toujours le faire quand même, c'est gentil, mais ça ne va pas plus loin que ce moment-là. On ne peut pas dire non plus, ben là, écoute, il faut changer les structures sociales du Québec, donc on pensera à ton pain demain matin. Non, c'est là qu'il y a faim, puis c'est là qu'il faut lui donner. Mais il y a aussi autre chose. Il y a une autre transformation qu'il faut. Il faut penser à universaliser les soins qui vont permettre du bien-être dans notre monde. Soins de santé, pas juste pour notre province, notre pays, pour le monde, un salaire citoyen, pourquoi pas? Des transports publics pour que tous puissent avoir accès à des déplacements abordables. Une éducation universalisée pour que tous aient droit au même type d'éducation. Une distribution selon les besoins. Exactement ce que le Seigneur nous enseigne dans Exode 16. Il y en a qui en ramassent plus, il y en a qui en ramassent moins. Tout le monde a exactement ce qu'il a besoin pour sa famille, pour ceux qui vivent dans sa tente, à chacun selon ses besoins. Et là, cette justice-là, c'est le Seigneur qui l'a fait, miraculeusement. Peu importe ce que les gens ont fait, peu importe la désobéissance des gens, parce qu'il y en a qui vont en chercher le lendemain, mais ils ont quand même leur portion. Tout le monde a ce qu'il faut dans le Seigneur. Le Seigneur s'est incarné. Dieu s'est incarné en Jésus. Il s'est fait homme pour intervenir à l'intérieur de l'histoire et par l'histoire, par le monde, par les sociétés, par les cultures dans lesquelles il s'est incarné. On dit toujours que Christ est présent avec nous parce que c'est lui l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et oui, l'Église, c'est le corps de Christ. Et c'est qui l'Église? C'est nous. C'est à nous à agir. C'est à nous à bouger les mains, les pieds, à penser comme Christ l'a fait, parce que c'est Dieu qui est présent en nous dans notre Église. Et nous, on est son corps qui agit, qui œuvre dans le monde, qui transforme cette société-là. Notre laxisme est un refus de la promesse du Seigneur. Nos paresses sont un refus de la promesse du Seigneur. Notre manque de foi aussi. Beaucoup vont dire dans notre société, on l'entend au bout de champ, il faut accumuler pour nous-mêmes. Avoir des fonds avant d'investir. On nous dit toujours, vous ne pouvez pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Hein, les économistes qui passent aux nouvelles, vous ne pouvez pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Il faut être réaliste. En fait, c'est l'inverse, il faut être réaliste. Il faut penser autrement. Parce que si les gens ne dépensaient pas l'argent qu'ils n'avaient pas, ils ne pourraient tout simplement pas manger dans notre société. C'est l'accès au crédit qui a permis des choses. Donc, il faut changer nos paradigmes, il faut changer notre façon de comprendre les choses. Si on veut que les gens ne dépensent pas l'argent qu'ils n'ont pas, il faut qu'ils aient accès à plus de bien-être, à plus de programmes sociaux. La nourriture qu'on ne connaît pas, qui apparaît aussi sur nos tables, heureusement, qui nous défend de toute cette nourriture industrialisée infecte. On se demande pourquoi que les maladies croisent en Occident, en Amérique du Nord. Et ça a beaucoup à voir avec ça. Quand on voit que ceux qui produisent la nourriture se font proposer des engrais qui tuent. C'est du poison. Monsanto propose du poison comme engrais. Et on mange ce qui en est produit. Et il y a toujours quelque chose qui va être nouveau. On n'a pas fait le tour encore dans la façon de nous nourrir, dans la façon d'avoir accès à un certain bien-être. Il y a quelques années, on a commencé à pratiquer, on l'a fait presque tous les ans depuis ce temps-là, le jeûne de Daniel, qui n'est pas une grosse affaire. C'est un jeûne végétalien. Daniel avait refusé, lui, quand il était sous Nabucodonosor, d'aller manger à la table du roi. Il prenait de l'eau, puis seulement des feuilles, des légumes, ce qui était strictement végétal. Et puis on s'est dit, on va faire ce jeûne-là. Évidemment, bon, les premiers jours, c'est exotique. Quelques jours après, ça devient plus compliqué, parce qu'il faut absolument changer notre façon de comprendre de nous nourrir. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose d'absolument miraculeux. Le Seigneur nous donne une créativité qu'on ne nous connaissait pas. On se met à faire des choses savoureuses, extraordinaires. On nous apprend à manger autrement. On nous apprend à vivre autrement. Ça s'étend. À bouger autrement, à se divertir autrement. Il n'y a pas que la télévision et le hockey qui nous divertissent. Il y a d'autres choses. Hein? J'aime le hockey, hein, je le dis toujours. Mais il y a d'autres choses. Il y a une possibilité de vivre bien et autrement que ce que la société actuelle nous propose. Ayons confiance dans le Seigneur. Ayons confiance dans le Seigneur. Et peut-être aussi que ce qu'on a toujours vu comme étant des moyens de répression de la population, parce qu'on disait ce que la religion nous dit, et surtout les évangéliques, il y a des restrictions partout, ça n'en est peut-être pas. C'est peut-être tout simplement une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de la comprendre pour pouvoir vivre dans ce monde-ci librement, précisément. Libre des addictions, libre des esclavages dont on parlait tout à l'heure. Mais évidemment, ça fait peur. Parce que là, le confort, ça ne veut plus dire un sofa moelleux puis une grosse télévision. Ça devient autre chose. Ça peut se passer dans la rue. Ça se passe dans les relations sociales, dans les relations humaines. Ça se passe au travail. Ça se passe à partir du moment où on commence à dire à quelqu'un, « As-tu déjà entendu parler de Jésus? » Puis de la réaction qu'on peut avoir en retour. Des fois, on est surpris. On dit souvent, on n'a plus les moyens d'avoir les programmes sociaux qu'on a eus au Québec. Puis moi, je pense exactement l'inverse. C'est qu'on n'a pas les moyens, comme société, de ne pas avoir ces programmes-là. Sinon, tant de monde serait marginalisé, appauvri, desséché par en dedans, exclu de la société. Et nous, comme chrétiens, indépendamment de ce qu'on aura comme programmes sociaux, on a un travail à faire. On a un travail collectif d'intégration des gens dans la société. Ils en font partie. Toute personne est différente et chacun avec ses différences peut faire partie de cette société-là. Ça, pouvoir intégrer quelqu'un dans cette société-là est le premier pas pour qu'il ait accès à son pain, qui n'est pas juste le pain, qui n'est pas juste la nourriture, qui est un bien-être socio-matériel dans la société dans laquelle il est. Bien sûr, ce n'est pas nous, comme êtres humains, qui allons accomplir cette promesse historique-là avec nos actions, avec notre façon d'être avec les autres, mais c'est à nous à y contribuer. Parce qu'on sait que finalement, celui qui va établir son royaume, celui qui établit son royaume, c'est le Seigneur. C'est le royaume de Dieu, c'est lui qui l'établit. Mais nous, dans la mesure où on croit sa promesse, qu'on embarque avec lui dans ce projet-là, on a une responsabilité de le faire présent dans le monde. Et d'y travailler. Ce n'est pas de se dire, « Ah oui, moi, je crois au royaume. J'y crois tellement que je sais que je n'ai pas besoin de rien faire pour que ça arrive. Et surtout, je ne fais rien. » Ce n'est pas tout à fait la logique à laquelle on est invité. C'est vrai que le royaume ne dépend pas de nos actions. Mais quand on y croit vraiment, tout ce qu'on a, c'est le goût d'y participer à sa construction, d'avoir des relations avec les autres et bâtir des relations entre les êtres humains qui sont conformes à la volonté de Dieu, qui sont conformes à une société égalitaire, de partage, d'amour, d'entraide, de solidarité. C'est ce qu'on veut bâtir. Transformer les cœurs à travers ça pour que chacun prenne conscience de la nécessité du pain quotidien de chaque personne. Des fois, les cœurs durs disent, ben, il ne veut pas travailler, ben, qu'il crève. Ça, ce n'est pas l'attitude chrétienne. On doit s'en aller vers une attitude de partage, de mise en commun. Une église, quoi. Il y a autre chose aussi, qui des fois peut servir d'argument contre ce que j'apporte ce matin. C'est-à-dire, c'est bien beau vouloir une autre société, mais ça nous amène aussi dans une certaine insécurité parce qu'on a à bâtir quelque chose de neuf. Ça nous amène aussi dans une certaine précarité. Ça nous amène évidemment à être en opposition à quelque chose. Et puis ça, ce n'est pas nouveau, parce que depuis le jour où on a décidé d'être chrétien, on sait qu'on va avoir de l'opposition. On sait qu'il y a un ennemi qui ne va pas dans notre sens. On sait qu'il y a quelqu'un qui travaille à la division. Diable, diabolène en grec, veut dire diviser. Entrons en communion ensemble. Soyons solidaires. Tous ces mots-là vont à l'encontre du mot diable. Être solidaire, être en communion, être en partage, c'est l'opposé de la volonté du diable. Toutes ces valeurs-là qu'on caresse, qu'on chérit comme chrétien. Et puis on nous dit, ben là, écoutez, même dans la Bible, on nous parle de soumission aux autorités. Et puis, c'est vrai. Mais bon, disons ce passage-là pour le fun. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 17. Où on dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens, société québécoise, hein? Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme aux envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Moi, j'entends quelque chose d'un petit peu plus complexe que juste « soyez obéissant à l'ordre établi ». Obéir à toute autorité humaine parce qu'elle est de Dieu. Ben oui, si l'autorité humaine est là, Dieu l'a voulu quelque part. On l'admet, il n'y a pas de problème avec ça. Juste ici, au Québec, au Canada, on est bien placé pour savoir que des autorités politiques, on n'en a pas juste une. Il y en a au moins deux et sont souvent en contradiction les unes avec les autres. À laquelle on obéit? Puis là, je n'ai pas rendu l'affaire complexe encore. Il y a un palier municipal. Il y a aussi des autorités de quartier, des groupes de pression auxquels j'appartiens. Je travaille dans une entreprise. J'appartiens aussi à une église. Tout ça sont des prismes d'autorité pour moi. Et puis, force est d'admettre que tout ça est en opposition. Il n'y a pas beaucoup de convergence. Ce qu'on me dit à l'église, ce qu'on me dit au travail, ce qu'on me dit à la politique, ce que me disent les gouvernants. Le syndicat aussi est une association de travailleurs qui est une autorité voulue par Dieu. Toutes sont des autorités voulues par Dieu, laquelle je choisis. Et puis là, dans le texte, on a quelque chose d'assez clair. J'aime pas dire ça parce qu'il y en a beaucoup qui disent que la Bible est très claire là-dessus, puis c'est jamais très, très clair. Mais là, ici, il y a quand même quelque chose, vous en conviendrez, je pense, avec moi, où le Seigneur nous exhorte à faire le bien. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien pour le Seigneur? C'est ça notre définition du bien. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Et c'est une société, on l'a dans la description de son royaume, à travers les promesses qu'il nous a faites, un monde de justice, de paix, de liberté, de fraternité et de réconciliation. Est-ce que je trouve ça dans les propositions de ceux qui gouvernent? Si oui, et ça peu importe les opinions qu'on puisse avoir, si on trouve ça, il y a quelque chose à faire. À partir du moment où ils ne sont plus ces agents du bien-là, ils sont plus conformes à la volonté de Dieu. Et nous, on doit obéir aux autorités qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et ça va nous amener des fois en affront, en choc avec certaines autorités. Mais pas toujours. Des fois, on va dire, ah, là, il y a quelque chose de bon qui se fait parce que ça va dans le sens du Seigneur. Mais là, je décroche parce que ça, vraiment, ça ne favorise pas le bien-être du peuple du Seigneur. Et on a à travailler en conversation, en communion, en relation avec les autres, en dialogue avec les autres. C'est important. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire une société solidaire où tous auront leur pain quotidien et plus encore. Faire le bien, toujours avoir ça en tête. Être des témoins de cette foi-là, au bien, de cette foi-là au Seigneur, de cette foi-là au projet du royaume de Dieu dans notre monde. Agir de telle façon, d'une telle façon, avec les autres. Être ces témoins-là, comme nous dit le texte de 1 Pierre. Hein? Quand il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Nos actions, nos œuvres ne nous sauvent pas. Nos actions, nos œuvres ont pour but d'honorer le Seigneur. Quand je partage avec quelqu'un, ce n'est pas pour me dire « Oh, tu es quelqu'un vraiment dévoué à ta cause. » Non! Honorons le Seigneur parce qu'on est en train de construire son royaume par ce geste-là. Et c'est lui qui intervient là-dedans, à travers nous. Et ça, les autres remarquent cette option-là. Ça peut prendre du temps. Il y en a qui ont la tête plus dure que d'autres. Mais nous, comme chrétiens, notre devoir, c'est de faire ce travail-là. De toute façon, on ne va convertir personne. Jamais on ne convertit comme individu personne. C'est le Seigneur qui fait ce travail-là. Moi, j'apporte la parole. Moi, je témoigne par ma façon de vivre la parole de Dieu. Et le Seigneur va toucher les personnes. Mais moi, je ne touche personne. Je ne suis qu'un instrument. Puis merci, Seigneur, de faire en sorte que je ne sois qu'un instrument. Regardez ce qui est arrivé quand le Seigneur est arrivé lui-même pour faire ça dans le monde. Ça a été fait une fois pour toutes. Je continue comme instrument. Je ne me prends pas pour Dieu. On ne veut pas le même sort, même si ça peut arriver. Mais jamais oublier que le Seigneur agit à travers nous. Puis, être conscient que cette action-là de partage et de communion qu'on propulse à travers nos gestes, c'est Dieu qui agit en nous. C'est son corps qui est en train de bouger, qui est en train d'œuvrer. C'est Christ lui-même qui est en train de faire advenir son royaume à travers nos gestes. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, on te demande ce matin de mettre dans notre cœur cette conscience-là qu'on est tes instruments, qu'on est ceux par qui le pain quotidien peut arriver pour tout le monde, qu'une justice, qu'une équité, qu'une liberté puisse s'emparer du monde. En fait, pas n'importe quelle liberté, pas n'importe quelle justice, mais la tienne, Seigneur. Puis c'est au nom de Jésus qu'on le proclame, puis qu'on te demande de nous inspirer cette semaine et après aussi, Seigneur, dans toute notre action comme chrétiens. Au nom de Jésus, compris ce matin. Amen.